Monsieur Vacandio, astrophysicien. C'était un monsieur qui était très impressionné par la vitesse de la Terre. Mais tu le sais, à combien nous allons? Disait-il de temps en temps à quelqu'un qu'il trouvait soucieux. À 108 000 km à l'heure, tu réalises? Pour cette raison, il se disait incapable de continuer à travailler tranquillement pendant que la Terre filait à une vitesse vertigineuse à travers l'espace avec nous dessus à sa merci comme des imbéciles. Il disait que tout le monde, à commencer par ses collègues de bureau, étaient des irresponsables qui vont danser à droite et à gauche, se marier à la légère et dans la joie, pendant que la Terre est lancée sans contrôle dans l'espace et que personne ne sait comment, d'un moment à l'autre, cela peut finir. Nous sommes tous fous, disait-il. En principe, nous devrions tous être attachés avec des ceintures de sécurité, alors qu'on va au bureau où on nous donne des chaises qui se cassent rien qu'à les regarder. Non que les chaises servent à grand chose, mais c'est pour donner un exemple de la criminelle irresponsabilité de l'entreprise et de nous tous, syndicats compris. Ensuite, il disait qu'en montant à quelques kilomètres à peine dans la stratosphère, la température descend à 55 degrés centigrades en dessous de zéro, et que c'est donc un miracle, à la vitesse à laquelle on va, qu'il ne nous tombe pas brusquement dessus une bouffée d'air glacial auquel les poêles et les chauffages centraux ne pourraient rien. Je voudrais bien les voir, disait-il, ceux qui vont à la mer en été et toutes les pécores du service comptabilité, à commencer par la signorina Camelli, qui se mettent nues sur la plage. Je voudrais assister au spectacle, avec 55 degrés en dessous de zéro, et à 108 000 km à l'heure. Pour cette raison, il se disait incapable de rester assis au bureau en faisant comme si de rien n'était avec tous ses inconscients. Il prenait constamment des jours de congé de maladie, pendant lesquels il lisait fébrilement son atlas astronomique, et il entrait dans des angoisses et des tourments en pensant à la possibilité toujours imminente de rencontrer des astéroïdes errants, eux aussi lancés comme des bolides dans toutes les directions, ou de rencontrer la fameuse poussière cosmique si terrible à cette vitesse, ou encore la queue vénéneuse d'une comète constituée de gaz cyanogène à l'odeur caractéristique d'amande amère. Il disait que, de toute façon, s'il y avait un dieu, c'était un fou et un cynique qui mettait en danger la vie des autres, à savoir la nôtre, en nous faisant filer à 108 000 km à l'heure dans l'obscurité presque totale, au milieu du trafic convulsif d'autres corps célestes lancés sans réglementation et sans possibilité de manœuvrer in extremis, sauf de continuer tout droit, les yeux bandés, et aller s'écraser sur tout. Maintenant, la nuit, il n'arrivait plus à dormir parce qu'il s'était attaché à son matelas, l'oreille dressée pour entendre l'explosion. C'était sa femme qui le racontait. Elle dormait, mais elle était constamment dérangée par les soubresauts de son mari dès qu'il entendait la porte d'entrée claquer, un grincement ou une chaise déplacée à l'étage au-dessus. Sa femme se retournait dans le lit et c'est lui qui disait « Fais doucement ». Parce qu'il avait peur de ne pas entendre à temps le télescopage de la Terre avec une autre planète provenant par exemple d'une orbite en sens contraire. Il avait peur d'être brusquement projeté à bas de son matelas, tout en reconnaissant que c'était des peurs irrationnelles, puisque au minimum la maison aussi s'écroulerait et que la ville serait sans doute entièrement rasée. Pendant la journée, il avait toujours les yeux mi-clos et baissait la tête comme le type qui roule en moto et sans le vent lui fouettait le visage. Même au bureau, il se comportait en motocycliste et il portait, été comme hiver, une écharpe autour du cou, nouée très serrée pour que l'air ne passe pas. En fait, il souffrait de rhume de cerveau, de sciatique et grognait sans arrêt contre les courants d'air qui lui arrivaient dessus. À d'autres moments, on aurait dit quelqu'un qui va recevoir le plafond sur la tête et qui craint pour son cou et son épine dorsale qui reste donc tendue, tout recroquevillée. Et s'il écrit, il le fait à toute vitesse, de crainte de ne pas arriver au bout de la ligne. Telle était sa vie au bureau, angoissée et perturbée, dans l'entreprise de rayonnage métallique Palitriani et Becchi. Nous sommes sur une balle de fusil, disait-il, avec une simple et unique perspective, et alors ce sera une question d'heures, peut-être de minutes. Mais sa femme, qui en avait marre de cette idée fixe, lui disait de temps en temps pour le calmer, tu veux parier que nous ne rencontrerons jamais rien? Lui, il disait que c'était un raisonnement imbécile, un raisonnement totalement inconscient, comme si on pariait sur quelqu'un qui passerait en mobylette à 900 km à l'heure sur le Corso Vittorio Emanuele, c'est-à-dire à la vitesse d'un avion à réaction. Tu parierais, toi, qu'il lui arriverait rien? Demandait-il. Sa femme en avait marre, et lui s'effrayait de ses propres paroles, transpirait, se mettait sur la tête un casque en bois, pareil à ceux des mineurs, même s'il savait qu'il ne servait à rien parce qu'il était démodé et que c'était un casque de cycliste. Mais ça lui permettait de se consacrer, avec plus de concentration, à la lecture de son atlas astronomique. Il redoutait plus particulièrement certaines petites planètes rares mentionnées, dont l'orbite elliptique venait couper la nôtre, et dont il s'informait chaque semaine par téléphone au département d'astrophysique de l'université. Il était surtout angoissé par un certain Adonis. Il demandait où il se trouvait en ce moment, si on le voyait au télescope, et, au ton de la réponse, il comprenait tout de suite si on lui mentait ou si on lui disait la vérité. Par exemple, quand on lui répondait que les tableaux des éphémérides n'étaient pas très à jour ou qu'à cette époque Adonis n'atteignait pas la magnitude 11. Ou encore qu'on n'aimait pas donner des renseignements par téléphone à n'importe qui. C'était la réponse qui l'inquiétait le plus et aussi la plus fréquente. Alors, Il allait se balader dans les rues proches du centre d'astrophysique. Certaines fois, il y entrait sous un prétexte quelconque et regardait les appariteurs droit dans les yeux pour comprendre si l'alarme avait été donnée, si quelque chose avait transpiré, par exemple si une catastrophe interplanétaire était imminente. Il attendait aussi la sortie des professeurs pour interpréter leur comportement, voir s'ils étaient nerveux, s'ils discutaient fiévreusement entre eux ou se sauvaient en masse. Un jour, il en avait vu un sortir en courant du cours, une valise à la main et tout décoiffé, sauter dans une voiture et filer. Il avait paniqué et avait tout de suite demandé « Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe !» Puis il l'avait attrapé, un assistant par sa veste, et l'avait supplié. Ou alors, il suivait des professeurs dans la rue, surtout quand ils étaient par deux, pour saisir des bribes de ce qu'ils disaient, peut-être justement sur la trajectoire d'Adonis. Mais il semble qu'il n'ait jamais rien saisi, sauf des choses banales au point de lui faire penser que c'était un langage codé. Il s'attendait à arriver un jour à l'université et à la trouver déserte, tous dans un abri anti-atomique à l'insu du genre humain, parce qu'un astéroïde non identifié provenant d'une galaxie fugueuse se dirigeait à la vitesse de la lumière. Non, ça c'était impossible, se disait-il, à cause de la théorie de la relativité. Et donc il se dirigeait à une vitesse incommensurable vers la Terre, pendant que la Terre allait à sa rencontre à 108 000 km à l'heure. Sans oublier que tout le système solaire, et nous avec lui, comme des idiots liés au même destin suicidaire, voyage lui-même à 72 000 km à l'heure en direction de l'étoile Vega, constellation de la Lyre. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, peut-être de la matière opaque qui nous tombera dessus comme une bombe de roche ou de ciment. On rira bien alors des gratte-ciels, des ponts suspendus et des viaducs de l'autoroute produits de la bêtise humaine. On rira aussi des carreaux des fenêtres et même des vitres incassables de l'entreprise de rayonnage métallique palétrienne Iebecki. Mais il paniquait aussi quand il voyait un astrophysicien se mettre à la fenêtre et regarder en l'air pour savoir s'il allait pleuvoir. Il avait une vénération pour les astrophysiciens. Son fils, qui était d'ailleurs son fils unique, avait quitté la maison à 18 ans parce qu'il ne s'était jamais entendu avec son père. Il le considérait comme un déséquilibré, il avait avec lui de violentes discussions sur la vitesse en général. Il aimait rouler vite à moto, alors que son père disait que les motos sont très dangereuses, qu'elles se meuvent en équilibre précaire, contre nature, et que tous les motocyclistes sont voués à la chute. Il ne voulait donc pas prendre la responsabilité de lui en acheter une, car la moto s'ajouterait au danger que nous courons continuellement en filant à 108 000 km à l'heure à travers l'espace. « Ça devrait déjà te suffire !» criait-il à son fils. « Si tu es donc si pressé, si tu aimes tant la vitesse !» La moto, c'est donc le fils qui se l'acheta lui-même pour quitter presque aussitôt la route dans un virage. Son père alla le voir à l'hôpital et lui dit seulement que tout venait de son ignorance de la force d'inertie appliquée à une masse en mouvement. Le fils s'acheta une seconde moto, mais il était incapable de conduire comme tout le monde. Il voulait uniquement aller vite, c'était sa disposition psychique, et il finit contre un grillage métallique qui, par chance, le sauva. Les mésaventures du fils détournèrent un peu l'attention du père, surtout parce que sa femme était inquiète en permanence et disait, chaque fois qu'elle entendait une sirène d'ambulance, qu'il était arrivé quelque chose. Qu'elle le sentait, et elle voulait que son mari téléphone aux hôpitaux ou aille directement aux urgences pour calmer son angoisse. De sorte que la vitesse de la Terre était passée au second plan, ou qu'il la gardait désormais pour lui. En outre, ce qui le rassurait quand il feuilletait son atlas, c'était par exemple la distance qui nous sépare de Jupiter et le fait qu'il était à l'état gazeux, comme une bulle d'air ou un nuage. Pluton, Neptune, Uranus et Saturne le tranquillisaient également. La distance, en général, le tranquillisait. Même celle des galaxies et le fait que l'univers soit par bonheur encore en expansion. Mais il ne comprenait pas la raison d'une telle vitesse, ni son but. Pourquoi tant d'essoufflement, tant de hâte dans les cieux? En fin de compte, la Lune aussi le rassurait. À ceci près qu'il ne la comprenait pas. Il la regardait comme la regarderait un philosophe, c'est-à-dire comme un corps insensé qui court à se rompre le cou, sans jamais revenir sur sa décision. Il la jugeait aussi sévèrement que son fils. La peur lui revenait de temps en temps en août, surtout pendant la nuit de la Saint-Laurent, quand c'était l'époque des étoiles filantes, il se sentait, c'est lui qui le disait, comme un sourd sous un bombardement. En plus, disait-il, personne ne savait qu'il y eut une guerre. Cette famille s'appelait Vacondio, domiciliée Viapo, à Torino.